Cette année, nous avions choisi pour les conférences deux thèmes vraiment très larges, Paris, le 19e siècle et éventuellement la rencontre des deux. Et disons que ce lieu et ces thèmes m'ont inspiré cette petite présentation très modeste. Alors c'est une présentation, en effet, je vous présente Adèle. Adèle Godet. Alors ici, elle a moins de 20 ans et cette photographie qui est sur plaque de verre a été prise par son père ou bien par son frère aîné, car on est photographe dans la famille Godet. Adèle est née en 1847, comme nous l'apprend cette fiche de l'état civil reconstituée à Paris. Vous savez qu'une grande partie des archives a brûlé dans les incendies de la Commune. Comme souvent, ses proches ne l'appellent pas par son premier prénom qu'une parenté a imposé, mais par le second qui est plus représentatif d'un véritable choix. Adèle est née à Batignolles, qui au moment de sa naissance est un village non intégré à Paris. Je vous signale que le 23 juin, nous aurons une conférence ici sur l'extension de Paris en 1860. Et Adèle a grandi dans la rue où Nicolas Godet, son père, exerce son métier de photographe selon des modalités qui sont précisées sur ce prospectus. Alors, vous voyez que ce monsieur pratique le daguerréotype et qu'il est professeur de photographie. Vous voyez quelles sont ses spécialités, en particulier la reproduction d'œuvres d'art. Nicolas Godet est installé rue Saint-Louis à Batignolles, qui deviendra la rue Nollet. Et dans ces années 1859-60, habite dans la même rue un jeune garçon de 15-16 ans qui s'appelle Paul Verlaine. Nicolas est né en 1806 à Paris. Il représente la première génération qui naît ailleurs que dans l'intervalle entre Houdan et Mantes-la-Jolie, où la famille a évolué pendant au moins deux siècles. Au moment de son mariage, il est ébéniste dans le faubourg Saint-Antoine, et puis il a été conquis par la photographie à la suite d'on ne sait quelle rencontre. Bon, pour Daguerre, la photographie, c'est 1839. Dès 1850, Nicolas Godet est photographe, et en 1860, son passeport pour la Hollande mentionne cette profession. Il a 54 ans. Étant donné sa spécialité dans la reproduction des œuvres d'art, on peut supposer que cette destination, la Hollande, n'est pas étrangère à son métier et à ses goûts artistiques. À cette époque, nombreux étaient les peintres français qui allaient voir les maîtres hollandais sur place. Manet, par exemple, qui en a même ramené sa femme. 1860, c'est l'année où le village des Batignolles est rattaché à Paris. Et bien, deux ans plus tard, la famille Godet traverse la grande rue des Batignolles, qui est notre actuelle avenue de Clichy, et emménage rue des Carrières, qui est actuellement la rue Gannereau. Et je ne sais pas si vous connaissez, mais les merveilleux calepins du cadastre qui sont conservés aux archives de Paris nous apprennent que Nicolas Godet devient propriétaire d'un hangar servant d'atelier de photographie, donc au 6 rue des Carrières, dans une cour intérieure. Il s'agit d'une construction en plâtras. Entre 1862 et 1865, Nicolas, qui approche les 60 ans, améliore la construction. Le hangar devient un pavillon, fait désormais d'une salle d'attente, de deux ateliers vitrés, de deux laboratoires. La partie habitation dont on ne sait exactement de quoi elle se compose au début va devenir plus conséquente puisqu'elle comportera au rez-de-chaussée, comme nous le précise très exactement ces calepin du cadastre, un vestibule, une cuisine, une salle à manger, un couloir, un cabinet noir, une pièce à feu, et puis accessible par l'escalier intérieur, une deuxième pièce à feu, un cabinet de toilette, des lieux, des anses bien sûr, et deux cabinets noirs. Alors c'est loin d'être le luxe, mais pour une famille de 5 adultes, eh bien deux chambres, c'est déjà pas si mal. Pour cette acquisition et pour les travaux, Nicolas a emprunté de l'argent à sa mère et il doit la rembourser. Sa mère, elle, a rejoint le berceau familial à Mantes-la-Jolie avec son mari qui était charcutier, mais maintenant elle est veuve. Alors Nicolas lui écrit fin décembre 1864. « Je t'envoie 6 juin un billet de 50 francs en attendant l'échéance du prochain qui sera pour à peu près vers la fin janvier. » Alors, en cette fin 1864, Nicolas ne peut pas présenter ses vœux de vive voix à Madame Mère. Il a trop d'ouvrages et il s'en réjouit. Alors, au même courrier, sa fille Adèle, dont je vous ai montré le portrait, qui a 17 ans, présente ses vœux de nouvel an à sa grand-mère et elle se fait l'interprète de ses frères. Alors, on ne sait pas exactement où cette jeune fille d'avant l'école obligatoire, gratuite et laïque a étudié, sans doute dans une de ces institutions privées, religieuses ou non, où on donne des bases d'éducation aux jeunes filles en accordant un soin particulier à l'orthographe et à l'expression écrite. Elle écrit. Je me joins à mon père pour vous souhaiter une bonne année sous tout rapport, celui de la santé et celui de l'esprit, que tous vos désirs s'accomplissent pour votre bonheur. Anatole et Albert forment les mêmes vœux et nous vous souhaitons tous une longue vie. Anatole et Albert, les deux frères, se sont dit « La frangine va écrire à la grand-mère, c'est très bien ». Déjà, à travers cet état, à travers les formules, on peut un peu situer cette famille. Les Godet sont propriétaires de l'atelier et de l'appartement, mais pas du terrain qu'ils occupent. Nicolas, le père, tutoie sa mère, mais Adèle vouvoie sa grand-mère. On est un peu dans un entre-deux, ni ouvrier, ni bourgeois fortuné en tout cas. Adèle a en effet deux frères. Anatole, l'aîné, a 8 ans de plus qu'elle et Albert, le plus jeune, a 4 ans de moins qu'elle. Par cette progéniture réduite à 3 enfants, les Godet ne sont pas dans la tradition. Par exemple, la grand-mère paternelle de Nicolas avait eu 14 enfants et rien que des gaillards. Pourtant, dans son village, les bébés qui étaient natifs de l'endroit, tout comme ceux très très nombreux qui étaient gardés en nourrice, mouraient à la chaîne, il y avait des épidémies terribles. Mais les petits Godet, les Athanase, Prudence, Sidoine et autres résistent. Il y a un bébé par an, sauf en 1789. Signe de révolution. Et Clotilde Godet, donc, qui a fait sa révolution en 89, n'échappe à de nouvelles maternités que le jour où son mari meurt à l'âge de 47 ans. Mais revenons à Paris et aux années 1860-70 et aux Godet des générations suivantes. Famille réduite donc à 3 enfants, c'est moderne. Les affaires ne doivent pas trop mal marcher. Alors certes, les Godet resteront très très loin des photographes qui battent tous les records de production, que ce soit dans le domaine de la photographie carte de visite ou de la reproduction d'œuvres d'art. Il faut imaginer que le roi de la photographie carte de visite, Disdéry, employait 90 personnes et produisait 2000 tirages par jour. Et la photographie à Paris, dans la deuxième moitié du 19e siècle, c'était d'une vraie folie. Il y avait énormément de photographes. Du côté de la reproduction des œuvres d'art, c'était des gens comme Brown, comme Goupil, qui avaient énormément de production. Donc cet atelier restera toujours familial, modeste, sans autre publicité qu'une ligne dans le bottin du commerce. Mais on vient poser chez eux, alors par exemple, des garçonnets communiant en costume militaire. Alors ce type de costume semble-t-il être à la mode. Voilà un autre communiant qui lui aussi est doté à la fois d'un brassard et d'un képi, photographié à la même époque à Nice. Viennent aussi des dames doucement mélancoliques. Et si j'ai choisi ce dernier portrait carte de visite, c'est parce qu'il date de juillet 1869, une date importante. C'est l'été qui voit naître le petit carnet d'Adèle. Alors ce petit carnet, il mesure 4 cm sur 9, il a une couverture en carton solide, un minuscule fermoir ouvragé, et c'est à l'occasion d'un voyage en Normandie avec sa mère qu'Adèle entreprend d'y tenir son journal, entièrement écrit au crayon. Alors le journal de voyage est souvent un prétexte pour commencer des journaux intimes. Les spécialistes de ce genre, de l'étude de ce genre qu'on appelle les diaristes, savent bien ça. Il est question dans ce journal, ici, dans ces pages-là par exemple, des églises de Dieppe avec quelques descriptions et commentaires qui témoignent pour cette jeune fille d'une certaine culture en matière d'architecture et surtout d'une grande sensibilité aux paysages et aux œuvres. Adèle a 22 ans. Lorsqu'elle commence la rédaction de ce carnet, elle nous apprend qu'elle est malade. Crachement de sang, nombreuses visites du médecin et chez le médecin. Là aussi, c'est un renseignement intéressant sur la catégorie sociale. parce qu'on sait que dans les classes pauvres, jusqu'au XXe siècle bien entamé, on hésitait avant de faire venir le médecin à cause de la dépense. Adèle note qu'elle s'est appliqué un cataplasme à base de tapsie qui l'a fait horriblement souffrir. La tapsie, c'est une plante dont la racine contient une substance corrosive et on l'utilisait pour faire des cataplasmes. Adèle, malgré sa maladie, n'hésite pourtant pas à se déplacer seule à Mantes pour voir sa grand-mère, ses oncles, ses tantes, ses cousins qui y habitent. Depuis 1851, en effet, il y a une ligne de chemin de fer qui relie la gare Saint-Lazare à Mantes-la-Jolie. Il semble néanmoins qu'elle reçoive plus de visites qu'elle n'en rend. Elle note les petits cadeaux que lui apportent ses parents et ses amis. Un jour, c'est une fleur d'arôme artificiel. Alors ce détail témoigne d'une mode très répandue qui est employée une main-d'œuvre féminine importante, la fleur artificielle, qu'elle soit destinée à garnir les chapeaux ou bien à décorer les appartements. Il y avait une véritable concurrence à produire les fleurs les plus rares, aux nuances les plus délicates et sans doute la fleur d'arôme constituait-elle un article particulièrement raffiné. Adèle note les livres que l'on lui prête. Les œuvres de Lamartine, le voyage en zigzag de Töpfer, sous-titré « Excursion d'un pensionnat en vacances dans les cantons de Suisse et sur le revers italien des Alpes ». Alors ce livre a été publié en 1844 et il présente des excursions instructives dans un désir d'éducation au contact de la nature. J'ai regardé si on ne l'avait pas ici parce que c'est tout à fait le genre de livre qu'il y aurait pu y avoir ici, mais il n'est pas à la bibliothèque des Amis de l'Instruction. L'écrivain spécialiste de la bande dessinée, Benoît Peters, voit en Töpfer un véritable précurseur de la bande dessinée. Il a influencé Christophe, notamment pour la famille Fenouillard. Et Töpfer est revendiqué autant que Jules Verne par Jean Cocteau lorsqu'il s'embarque pour son tour du monde en 80 jours. Alors le livre des voyages en zigzag est prêté à Adèle par un ami de la famille d'origine suisse. Chez ce dernier, elle note avoir rencontré M. Hildebrandt, graveur sur bois français. Cette personne est un des meilleurs graveurs de Gustave Doré. Il travaille pour les éditions Hetzel, notamment pour les romans de Jules Verne. Jules Verne, justement, est présent dans la bibliothèque de la famille Godet. Dans la bibliothèque d'éducation et d'instruction de Hetzel, les parents ont acheté « Voyages et aventures » du capitaine Atterras. Et ils ont acheté aussi « Les enfants du capitaine Grant ». Mais l'auteur le plus représenté dans leur bibliothèque, c'est Victor Hugo, dont ils ont une vingtaine de volumes. En 1873, les parents investissent dans l'achat par fascicule du « Dictionnaire de la langue française de Littré », dont le quatrième et dernier volume a été achevé juste l'année précédente, en 1872. Mais nous n'en sommes pas encore là. De toute façon, cette existence de livres au domicile signifie encore quelque chose du point de vue social. On a les moyens d'acheter des livres et on en lit. Au début de 1870, la politique fait son entrée dans le journal d'Adèle. Elle écrit... 10 janvier 1870, le prince Pierre Bonaparte assassine Victor Noir, un rédacteur de la Marseillaise. Enterrement civil à Neuilly, Anatole et Albert y sont allés. Et elle cite, outre ses frères, d'autres personnes de sa connaissance. Alors pour mémoire, vous le savez certainement, mais Victor Noir, à peine âgé de 22 ans, était journaliste à la Marseillaise, un hebdomadaire satirique de tendance fortement républicaine. Et la Marseillaise avait été fondée quelques mois plus tôt par Henri Rochefort. Le prince Pierre Bonaparte, fils de Lucien Bonaparte, neveu de Napoléon Ier, cousin de Napoléon III, s'était estimé diffamé par un article de la Marseillaise. Il avait provoqué en duel le rédacteur en chef, Pascal Grousset. Alors là, on retrouve encore une conférence de la bibliothèque. Pascal Grousset, alias André Laury, dont il a été beaucoup question ici dans une conférence pour ses relations avec Jules Verne et Hetzel. C'est un petit monde, hein, tout ça. Bref, Pascal Grousset envoie Victor Noir et un ami au domicile du prince Pierre Bonaparte à Auteuil pour organiser le duel. L'entrevue se passe mal. Victor Noir, semble-t-il, lève sa canne sur le prince et celui-ci, se saisissant d'un pistolet, fait feu sur le jeune homme et le tue net. Il y a évidemment là prétexte à ce que se libèrent des manifestations d'hostilité contre la famille impériale et plus précisément contre l'Empire et Napoléon III. Ce qui ne manque pas de se produire, bien que les autorités aient pris la précaution d'organiser l'enterrement de Victor Noir dans le cimetière de Neuilly. Donc Anatole et Albert font partie des manifestants et l'on devine qu'Adèle voudrait bien pouvoir en être aussi. Elle a de très fortes opinions politiques qui s'affichent dans son carnet. Elle s'indigne par exemple de ce que l'entourage de sa grand-mère, Amante-la-Jolie, ait voté oui au plébiscite du 8 mai 1870, confortant le pouvoir de l'empereur. Elle écrit « C'est encore ma cousine la moins bête. Ne comprenant guère la politique et ne sachant pas ce que c'est que le plébiscite, elle est mieux n'avoir pas d'opinion, ce qui vaut mille fois mieux que de partager celle d'Émilien, lui c'est le cousin, qui a si peur pour ses gros sous. Vive la République ! Et quoi qu'en dise Émilien, il existe de vrais républicains qui mettent l'intérêt commun au-dessus de l'intérêt particulier, qui sont patriotes avant d'être soi. S-O-I. Il n'y a que l'égoïsme, avec un E majuscule, pour ne croire ni au désintéressement, ni à une religion politique. Je dis religion et non pas opinion, car les principes républicains sont saints, sont purs, et pour moi, je ne connais pas d'autre religion que celle-là qui est universelle et seule dépouillée d'artifice et de superstition. » On voit donc qu'Adèle est une jeune personne informée, critique, décidément républicaine, ce qui ne manque pas de sens à une époque où les régimes alternent avec une telle rapidité. Le 15 août 1870 trouve Adèle à Mantes et elle va nous faire entrer dans son récit au quotidien de la guerre. Cette année, pas de fête de l'empereur à cause de la guerre, écrit-elle. Alors il faut savoir que le 15 août était devenu par un jeu de passe-passe assez drôle, jour de la fête de l'empereur. Ce 15 août, qui pour nous est un jour férié à cause de la fête de l'Assomption, a une signification politique au XIXe siècle. Il a été institué fête de l'empereur par Napoléon Bonaparte, qui a trouvé des prélats assez complaisants pour trouver un saint Néopolis qu'on pourrait célébrer ce jour-là. Le Néopolis s'étant transformé en Napoléoné. La fête a été mise en veilleuse après Napoléon Ier. Elle est réactivée par Napoléon III. Elle est célébrée avec des revues militaires, des banquets pour les notables, des bals, des feux d'artifice. Donc, pas de fête de l'empereur le 15 août 1870 à cause de la guerre. Le journal d'Adèle se poursuit. 16 août, pas encore de nouvelles. Et il est bientôt 5 heures du soir. J'ai oublié d'écrire qu'on a soupçonné Leboeuf de nous avoir trahis. En effet, il est certain que déclarer la guerre, la vouloir et se dire 5 fois prêt lorsqu'on ne l'est pas du tout, c'est trahison. Alors Leboeuf était ministre de la guerre et il aurait affirmé « Nous sommes prêts et archi-prêts. La guerre dût-elle durer 2 ans, il ne manquerait pas un bouton de guêtre à nos soldats. » Alors la formule est bien connue, on ne sait pas si elle est parfaitement exacte puisque l'histoire est toujours friande de ces formules à l'emporte-pièce, mais au moins Adèle authentifie ce fait que Leboeuf était animé d'une certaine confiance. Et elle poursuit. Le ministère a été obligé de donner sa démission en masse. Le nouveau ne vaut guère mieux. Grand Perret est nommé ministre de la Justice. N'a-t-il pas acquitté Bonaparte ? Alors en effet, avait été nommé ministre de la Justice un homme qui avait contribué à l'acquittement de Pierre Bonaparte, l'assassin de Victor Noir. Voilà. Elle note aussi, Mégy est condamné à 15 ans ou 20 ans de travaux forcés. Mégy, c'est un ouvrier actif dans l'opposition qui avait refusé d'être arrêté à son domicile la nuit. C'était en effet contraire à la loi et dans sa résistance, il avait tué un gendarme. Rochefort n'est pas sorti de prison. Le rappel et le réveil sont suspendus. À quand donc notre revanche, mon Dieu ? Alors, il y avait de nombreux journaux d'opposition. Le réveil avait été fondé par Delescluze en 1868 et le rappel par Victor Hugo en 1869. Adèle partage donc sans ambiguïté les opinions défendues dans ses journaux républicains. Elle parle de notre revanche. Adèle et sa mère partent quelques jours à Mantes. La grand-mère d'Adèle étant malade, on décide de la ramener à Paris. Nous partons le plus tôt possible. Je crois que les événements nous pressent. D'ici quelques jours, peut-être nous serons enfermés dans Paris. Toutes les communications seront interrompues. Et lorsqu'elles reprendront ces communications, où en serons-nous? Bien des amis de moins peut-être. Que de vide cette horrible guerre laissera. Le 31 août, Adèle est de retour à Paris avec sa famille et elle poursuit sa narration. J'ai été voir avec papa les fortifications. On y travaille toujours. 4 septembre 1870. Vive la République. Hier, Bonaparte a été fait prisonnier dans Sedan par le roi de Prusse, MacMahon grièvement blessé, Sedan capitule et 40 000 soldats français prisonniers. Aujourd'hui, déchéance de l'empereur à la Chambre des députés et proclamation de la République. Je suis sortie avec maman. Tout le monde se réjouit du changement de gouvernement et espère, malgré le grand danger, où est la patrie. On craint que les Prussiens soient dans quelques jours près de Paris. Alors le 5 septembre, elle écrit la liste de tous les hommes nommés au gouvernement. 21 septembre, je précise, c'est le troisième jour du siège de Paris. Adèle écrit « Paris est presque investi tout autour par les Prussiens. De temps en temps, on entend le bruit du canon. » 23 septembre, vive canonnade. Depuis ce matin, le ballon qui portait des lettres est passé au-dessus de nous. Alors en effet, ce 23 septembre a été marqué par le départ depuis la place Saint-Pierre, c'est la place qu'il y a tout en bas du Sacré-Cœur, qui évidemment à l'époque n'existait pas, du premier ballon poste, le Neptune. Il parcourra 104 km et atterrira dans l'heure. Le journal d'Adèle s'arrête pendant 5 semaines, des jours de siège qui sont marqués par le décollage quotidien de ballons, par le rationnement de la viande qui finit par disparaître des boucheries. Adèle reprend son crayon à l'occasion du soulèvement du 31 octobre. 31 octobre. Grande manifestation à l'hôtel de ville contre le gouvernement par les Républicains, Blanqui et compagnie. J'en suis, mais je n'ai pas manifesté. Alors cette manifestation a pour origine le sentiment qu'ont les Parisiens que le pouvoir prépare la capitulation de l'armée française. Ils apprennent que le gouvernement de la Défense nationale a envoyé Thiers négocier l'armistice à Versailles avec Bismarck. Ils se sentent trahis. Le jeune Clémenceau, qui a été nommé en septembre maire du 18e arrondissement, où habite Adèle, fait placarder sur les murs de cet arrondissement la municipalité du 18e proteste avec indignation contre un armistice que le gouvernement ne saurait accepter sans trahison. Alors, il est à noter que Karl Marx a étudié cet épisode dans la guerre civile en France. Cette importante manifestation débouche sur une mesure concrète, l'organisation d'un plébiscite. La question posée est, la population de Paris maintient-elle, oui ou non, les pouvoirs du gouvernement de la Défense nationale ? Une grosse majorité, 550 000 voix pour et 61 000 contre. Adèle en rencontre ainsi, sans commentaire. 2 novembre, plébiscite, le gouvernement est maintenu. 4 novembre, on nomme les maires par vote. Les maires arrêtés ou démis, donc à la suite des événements du 31 octobre, sont maintenus. 9 novembre, je vais toujours pas mal. Puis Adèle ne consigne plus rien dans son journal, sauf, sans date précise, continuation du siège, manque de vivres, trahison, pain noir fait avec de la paille. Alors on peut apprendre, en dehors du journal d'Adèle, qu'un boucher du boulevard Rochechouart se met à vendre des chiens et des chats, des rats, des brochettes de moineaux. Place de l'hôtel de ville, un marché aux rats s'est ouvert. Il fait un froid intense en ces mois de décembre 70 et janvier 71. Le thermomètre descend à moins 20. Le nombre de morts recensés chaque semaine est 4 fois plus élevé que celui de l'année précédente. Adèle ne reprend son carnet que le 20 janvier 1871. Et c'est pour noter « Grand-mère est morte aujourd'hui, 3h20 de l'après-midi. » Puis Adèle omet de noter la date, qui est celle du 28 janvier, lorsqu'elle écrit « Capitulation, que de guerres inutiles, Trochu, Favre, Thiers et consorts, prêtres. Et l'on passe directement au 18 mars. Le comte et Thomas fusillés, on a manqué Vinoy, comité central républicain, hommes inconnus. Ces quelques mots résument une journée qui prépare le début de la Commune de Paris. Ce 18 mars, sur ordre de Thiers, l'armée cerne les quartiers où se trouvent les canons pour récupérer ces canons. Le point le plus important se situe à Montmartre. Des gardes nationaux du comité central qui s'étaient constitués notamment pour protéger ces canons, accompagnés d'un grand nombre de femmes, s'opposent à leur enlèvement. Le général Lecomte donne l'ordre aux gendarmes de repousser les gardes nationaux. Il est enlevé de son cheval par ces mêmes gardes. Le général Thomas est également capturé. Ils seront exécutés. Adolphe Thiers quitte Paris pour Versailles. Quant au général Vinoy, commandant en chef de l'armée de Paris, qui n'est pas pris, comme le dit Adèle, c'est lui qui a suspendu 6 journaux républicains. Paris est désormais gouverné de fait par ce comité central républicain. Et Adèle note, 22 mars, les hommes du comité paraissent très capables. Toute la garde nationale et l'armée se rallient à lui. 26 mars, on vote aujourd'hui pour la Commune. On dit Cambronne au gouvernement de Versailles. Les maires ont adhéré aux élections. 28 mars, Adèle écrit toujours, bruit du canon, c'est la proclamation de la Commune. Vive la Commune et la République. Vive Paris, capitale et ville libre. En effet, le 22 mars, le comité central cède la place au Conseil de la Commune. Adèle écrit le 2 avril. Les Versaillais, c'est-à-dire l'Assemblée qui siège à Versailles, a engagé la guerre civile. Des Français ont tiré sur les Français. En effet, ce 2 avril, à Courbevoie, les troupes versaillaises ont attaqué les communards qui se sont repliés à Neuilly. 3 avril. Nous sommes sortis, nous deux, maman et moi. On rencontre beaucoup de groupes. Tout le monde est contre Versailles, excepté quelques mouchards qui finissent à chaque instant par se laisser découvrir. Alors il faut savoir que dans les années du Second Empire, il y avait eu une grande recrudescence de mouchards recrutés généralement parmi les exilés qui étaient de retour en France. Et cette notation d'Adèle ne doit donc pas étonner le fait qu'on rencontre beaucoup de mouchards. Elle poursuit. Beaucoup de gardes nationaux rentrent dans Paris. Ils sont pâles et ont l'air exténués. Ils sont tous couverts de poudre et de poussière. Thiers, Favre, Trochu, Vinoy, Ducrot, Schmitt sont bons pour la guillotine. 15 avril, grand coup de canon et de tonnerre. Alors là, il s'agit du bombardement par l'artillerie versaillaise d'Asnières où sont stationnées des troupes de la Commune. Adèle note, 29 avril, protestation des francs-maçons. Alors ce jour-là, il y a 6000 francs-maçons qui représentent 55 loges qui ont manifesté. Il y a une délégation de 3 d'entre eux qui se rend à Versailles pour obtenir une trêve, mais en vain. Et face à cet échec, de nombreux francs-maçons vont se rallier à la Commune et vont prendre les armes aux côtés des fédérés. Le 2 mai, Adèle note. Albert est à Neuilly, dans la garde nationale. Il est venu nous voir aujourd'hui. Il est à une barricade avec Monsieur Borde. Il s'agit donc de son jeune frère, que l'on voit là, en uniforme de garde nationale. 6 juin, les Versaillais sont entrés à Paris. Thiers et MacMahon au rang des Bonaparte pour les assassinats. Les tueries sont innombrables dans Paris. Les Versaillais tue, assassine et tue encore. Il y a dans Paris des incendies allumés par les communeux. Je voudrais qu'ils brûlassent le palais de Versailles et qu'ils rôtissent avec les droitiers qui y sont. Incroyables les massacres. Les chefs de la Commune ont commis en effet un grand crime. Ils ont été trop indulgents. Le journal d'Adèle se clôt ainsi. Reste encore 2 pages de notes, nettement séparées, prises lors d'un voyage en 1873 sur la côte atlantique. Alors Adèle nous renseigne sur les événements, sur ses positions politiques. Elle déclenche chez le lecteur beaucoup d'interrogations sur son éducation, sur son environnement. Il semble qu'il y ait une communauté de pensée entre elles, son père, sa mère, ses frères, très différentes de celles qui règnent dans la famille de Mantes-la-Jolie. Là-bas, les hommes qui ne pensent qu'à leurs gros sous, ne croient pas en la République. Mais rien ne nous dit où sont nées ces idées politiques. Peut-être à l'époque où Nicolas, son père, était ébéniste dans le faubourg Saint-Antoine, au moment de la révolution de 48, au contact de mouvements, mais qu'aucun indice ne permet d'identifier précisément. Dans sa narration, Adèle ne se réfère pas à un courant précis de pensée qui pourrait jouer un rôle de proximité par rapport à sa famille. Adèle nous parle donc de beaucoup de choses, à l'exception de ce qui se passe dans l'atelier de photographie familiale. Entre 1869 et 1873, elle n'y fait aucune allusion, alors qu'elle habite sur place et que l'activité ne manque pas d'intérêt et qu'elle y est sans doute mêlée. Mais sans doute en est-elle trop proche. On ne parle pas, on ne note pas les choses qui sont quotidiennes, qui sont familières. Je vous l'ai dit, l'atelier Godet est spécialisé dans la reproduction d'œuvres d'art. Le dépôt légal de la Bibliothèque nationale fournit les traces de ces photos lorsqu'elles ont été publiées. Un exemple, le certificat de conformité est signé Godet, là c'est Nicolas Godet. L'atelier Godet fait également des photographies, des dessins que Victor Hugo a lui-même réalisés pour l'édition de 1869 des Travailleurs de la mer. Ces photographies n'ont pas été publiées, mais elles ont servi de base de travail pour les graveurs. On aimerait bien qu'Adèle nous raconte certaines choses sur la façon dont les contacts se sont établis entre les divers intervenants, y compris l'auteur des dessins, mais bien que sensible à l'art et à la littérature, elle n'en dit rien. Dans ces mêmes années, autour de 1870, apparaissent dans les ateliers Godet des reproductions d'œuvres qui, mis à part les dessins de Victor Hugo, tranchent avec le style très classique, très conforme au goût admis dans les salons. Il s'agit de toiles de Manet, et cela en grand nombre. Il y a une cinquantaine de toiles de Manet qui ont été photographiées par Godet. Alors, Manet fait photographier ses toiles, surtout lorsqu'il les vend, pour en garder une trace. Il en vend par exemple 22 à Paul Durand-Ruel en 1872. Il envoie aussi des photographies à ses contemporains. En 1866, il écrit à Baudelaire « J'ai envoyé à l'exposition deux tableaux. Je compte en faire des photographies et je vous en envoyer. Il y a un portrait de Rouvière dans le rôle d'Hamlet et un fifre des voltigeurs de la garde, mais il faut voir les tableaux pour s'en faire une juste idée. » Alors voilà les deux photographies en question, exécutées par Godet photographe. Les deux toiles seront refusées par le jury du salon. On peut se demander pour quelles raisons Manet, qui malgré sa position contestée par rapport à l'art officiel, avait un nom, qui était l'ami Nadar, qui connaissait certainement des photographes de renom, pourquoi est-il allé choisir un petit atelier pour faire photographier ses toiles? Alors la raison la plus vraisemblable, c'est celle de la proximité. Les parents d'Édouard Manet habitent depuis 1855 au 69 rue de Clichy, à deux pas de la place Clichy. Manet a habité et a eu ses ateliers dans un secteur proche de la place de Clichy, boulevard des Batignolles, rue de Saint-Pétersbourg, rue d'Amsterdam, au numéro 77, qui donne juste sur la place de Clichy. Manet fréquente jusque dans les années 1875 le café Gerbois, qui se trouvait grande rue des Batignolles, avenue de Clichy, et dont on voit encore une plaque souvenir actuellement. C'est peut-être là qu'il a connu les Godet. Alors, Nicolas ou son fils Anatole? Dans les années 70, Anatole a déjà 31 ans. Il travaille depuis une dizaine d'années avec son père et c'est lui qui continuera de photographier les toiles de Manet quand son père sera mort. Mais rien ne permet de dire avec certitude si c'est lui qui a commencé à fréquenter professionnellement l'atelier, les divers ateliers de Manet. Ce qui est certain, c'est que tout ce petit monde se connaissait. On trouve par exemple un acte d'état civil où figure, en tant que déclarant d'un décès, Anatole Godet, donc le photographe, et le fils Gerbois, le fils du café Gerbois. Alors, pour la petite histoire, ce dernier, Albert Gerbois, est mentionné comme maître de bains 32 boulevard des Batignolles, où se trouvait effectivement un établissement de bain. Je ne sais pas si vous avez connu le cinéma qui s'appelait le Turin. Mais avant, il y avait un établissement de bain. Et ce fils Gerbois, avec son père le limonadier, fondera en 1885 les Bains-Douches, qui deviendront la boîte de nuit bien connue. Alors, pour en revenir au 19e siècle, Zola, qui lui aussi habitait tout près, venait au café Gerbois. Or, il existe une photo Godet de Madame Zola. D'ailleurs, la constellation Manet-Zola-Godet apparaît dès 1867, lorsque Manet décide d'organiser à ses frais une exposition particulière à côté du pont de l'Alma, en marge de l'exposition universelle. Il reprend un article de Zola pour la plaquette de présentation de son exposition. Cette brochure s'ouvre sur un portrait de Manet d'un grand graveur de l'époque, Félix Braquemont. Voilà la plaquette, Zola, le texte de Zola et la gravure de Félix Braquemont. Or, ce portrait a été fait d'après une photographie Godet, chose qui semble totalement ignorée. Le commentaire le plus pointu sur cette gravure indique qu'elle a été faite d'après nature. Or, je crois que si on rapproche les deux choses, on voit que jusque dans le nœud de cravate, il y a une certaine similitude entre la photographie et cette très très belle gravure. Alors, quoi qu'il en soit, les Godet ont accès à l'atelier de Manet. Ils photographient, entre autres, la toile dénommée « Le chemin de fer ». Et Manet utilisera l'un des tirages pour le rehausser de couleur. On a vu cette œuvre dans plusieurs expositions, cette photographie rehaussée de couleur, notamment à Orsay en 2008. Alors, il y a plusieurs collections de photos Godet, des toiles de Manet, qui se sont constituées. Il en existe à la Bibliothèque nationale, à la Morgan Library de New York, à la Fondation Custodia à Paris. Et voici le dos des cartons dans lesquels elles sont insérées dans la collection que possède le Musée de la photographie de Bièvre. Godet sera donc le photographe exclusif des œuvres de Manet jusqu'à la mort de celui-ci en 1883. Là, la famille de Manet fera appel à un autre photographe, Fernand Lochard, pour photographier l'intégralité de ce que contenait l'atelier en vue de vente successorale. Mais c'est un travail destiné simplement à répertorier des petits formats de moins de qualité et sans doute moins cher que la prise de vue professionnelle des Godet. Mais c'est à nouveau Anatole Godet qui sera demandé en 1884 par les organisateurs de l'exposition rétrospective sur Manet, mort donc l'année précédente, exposition qui se tient à l'École des Beaux-Arts. Tous les panneaux sont photographiés et ces photographies sont conservées à la Bibliothèque nationale. Alors cette rétrospective Manet, Adèle ne sera pas là pour la voir. Elle est morte en 1876 à l'âge de 29 ans. Son père ne sera pas là non plus, il est mort en 1878. Depuis, Anatole a continué de faire vivre l'atelier, sans doute avec l'aide de son jeune frère Albert, photographe lui aussi. Les photos Godet, très soignées, sont publiées dans des revues artistiques comme Le Monde illustré ou bien L'Art contemporain, un hebdomadaire qui, entre 1879 et 1882, publie chaque semaine une à quatre photos signées Godet d'œuvres présentées au salon. Mais l'activité reste modeste. Et à partir de 1885-86, on n'en trouve plus de traces. Albert, le jeune frère d'Anatole, et sa mère quittent la rue Gadron et émigrent temporairement dans le 9e arrondissement. Pour cette famille qui est toujours restée soudée de part et d'autre de l'avenue Clichy, ça étonne. Anatole reste donc seul et il écrit de curieuses lettres comme celle-ci. C'est un véritable délire, raturé, bouclé sur lui-même. Il déclare pouvoir proposer l'organisation d'une république universelle reposant sur la philosophie, sur les grands principes de la photographie. Une lettre où les formules obsessionnelles se rattachent aux soucis philosophiques, aux soucis politiques et à l'art. Un soir de février 1887, à la suite d'un accident, d'un débordement dont on ne sait la nature, Anatole est emmené à Sainte-Anne sur intervention du commissariat des grandes carrières. Alors, les archives de la police relative à ce secteur et à cette époque ont disparu. L'état d'Anatole Godet à son admission à l'hôpital est ainsi décrit. Paralysie générale, débilité mentale, diminution de la mémoire, divagation, idée de grandeur. Il dit avoir trouvé un moyen de ruiner la Prusse. Il a fait des découvertes énormes, etc. Trouble de la parole. Le malade est dans un état mental qui exige son placement dans un asile d'aliénés. 24 heures plus tard, Anatole est transféré à Ville-Évrard. Ville-Évrard, c'est l'asile et maison de santé mentale ouvert depuis peu, qui verra quelques décennies plus tard séjourner Camille Claudel, entre autres. À côté des bâtiments aujourd'hui neufs ou rénovés, certains coins gardent un cachet très 19e siècle. Les archives de Ville-Évrard contiennent un petit dossier au nom d'Anatole Godet. Le médecin-chef directeur de l'asile confirme dans ses certificats de quinzaine « Paralysie générale des aliénés à la seconde période, excitation maniaque, il a fait de grandes études photographiques, on vient de donner un grand dîner en son honneur, à maintenir. » Ce que l'époque nomme puniquement paralysie générale, c'est la neurosyphilis. Cette évolution particulière de la maladie peut apparaître 5 à 15 ans après l'infection initiale. Autrement dit, Anatole aura succombé au mal qui, sous cette forme ou d'autres, a atteint tant de ses contemporains. Manet, entre autres, qui l'avait contracté tout jeune, en est mort lui aussi, il avait été atteint dans sa mobilité des membres inférieurs. Le 27 avril 1887, Anatole Godet meurt. 6 mois à peine après sa mort, les bâtiments sur rue et sur cour du 6 rue Gadron sont détruits et un nouvel immeuble est construit. Albert, le plus jeune frère, qui à cette époque a 36 ans, n'a pas repris l'atelier Godet. Il est embauché par le comptoir général de la photographie qui sera racheté à la fin du siècle par un certain Léon Gaumont. Et cette photo a été prise sur le toit de la rue Saint-Roch où se trouvaient les ateliers photographiques Gaumont avant qu'ils ne deviennent des ateliers cinématographiques. Mais la photographie est loin d'être l'occupation favorite d'Albert Godet. C'est seulement son métier. Sa passion, c'est l'écriture. Dès l'âge de 16 ans, au moment où se tenait l'exposition universelle de 1867, dont on a parlé tout à l'heure, il composait un journal littéraire et artistique entièrement manuscrit, avec des critiques de spectacles et, comme dans tous les bons journaux, un feuilleton en bas de page. Intitulé « L'étoile », le journal de ce jeune homme de 16 ans a connu pas moins de 2 numéros. Jusqu'en 1930, date de sa mort, Albert, le petit frère donc d'Anatole et d'Adèle, écrira 18 volumes confectionnés par ses soins, calligraphiés, comportant des poésies, des chansons, des pièces de théâtre, des scénarios de cinéma. Peu de choses ont été éditées. Je vous montre là Jean La Bourrasque, opérette en un acte, dont il a écrit le livret, représenté pour la première fois à Paris, au théâtre de Batignolles et de Montmartre, le 1er février 1879 et édité en 1884. Voici l'une de ses chansons. Pour la scène, ce sont 38 œuvres, ou plutôt œuvrettes, allant du vaudeville au drame antique, en passant par la comédie rustique et la folie égyptienne, qui sont écrits par Albert Godet et parfois donnés au Boléro Star ou à l'Alcazar de Gargan. Pour le cinéma, malgré la proximité de Léon Gaumont, il ne semble pas qu'un seul des scénarios d'Albert n'ait atteint et encore moins crevé l'écran. Pourtant, il proposait une panoplie de sujets assez vastes, allant de la reconstitution historique du XXe siècle avant notre ère jusqu'au film policier. Alors je voudrais vous montrer une œuvre qui ne semble pas avoir été éditée, mais dont le manuscrit est une merveille au niveau de la mise en page et de l'illustration qui est signée d'un certain Boris. Il s'agit d'un conte intitulé « Les noces de Pierrot ». Ce Boris, manifestement très doué, n'a aucune place dans l'histoire de l'illustration. Il a fait une très modeste carrière dans les pompes funèbres. En ce qui concerne Albert Godet, auteur prolifique autant qu'obscur, du côté des chansons, on se situe autour de 300 titres, écrits entre 1876 et 1930. Certaines chansons sont données à l'Eldorado, à la Scala, au concert Moncey, au concert européen, à l'Eden Concert, à l'Alcazar d'hiver, à l'Alcazar d'été, à la Pépinière, au Café d'Orient, à la Gaîté Rochechouart, au Moulin Rouge. Des noms que Gérard Carreau, dans sa conférence sur la chanson 19e siècle, a prononcé. Albert Godet trouve des compositeurs qui ont un petit renom dans le milieu. En 1880, il est admis à la Lys chansonnière, une des plus célèbres goguettes parisienne, et voilà une photographie d'Albert Godet à cette époque. La Bibliothèque des Amis de l'Instruction possède des recueils de personnes qui ont été très importantes à la liste chansonnière. Alors évidemment, ces chansons sont soumises à la censure pour être données en public. Plusieurs sont censurées pour des paroles d'une polissonnerie assez innocente, il faut dire. Plus attendue est la censure dont fait l'objet en 1876 une chanson intitulée « Concorde » qui fait l'éloge de la concorde universelle et dénonce la présence au pouvoir de ceux que la Révolution française avait chassés, ou tout au moins de leurs continuateurs. Quelques chansons ont donc une tonalité politique, une sur la perte de l'Alsace-Lorraine, une sur un garde national, une sur la guerre des Balkans, deux sur la guerre de 14. La chanson d'amour est plus largement représentée, la gaudriole aussi, et de temps en temps, il y a de jolies choses. Et puis, je voudrais aussi vous montrer un type de chanson très particulier, la chanson réclame. Elle a été commandée à Albert Godet, qui signe ici du pseudonyme d'Albret, en 1886, par le grand magasin à la place Clichy. Il est noté que cette chanson réclame se chante sur l'air de « J'ai vu le Parnasse des Dames » de Doche Père. Alors toujours dans la conférence de Gérard Carreau, il nous avait parlé de ce Doche qui avait réuni des timbres préexistants dans une nouvelle clé du caveau, et ces timbres étaient bien utiles aux auteurs de l'époque. Ils permettaient aux personnes de s'emparer de n'importe quelle parole de chanson en les mettant sur un air connu. Pour la chanson réclame sur le magasin de la place Clichy, ce sont une quinzaine de couplets qui vantent les mérites de tous les rayons. Et sur ce même timbre, Albert a glorifié également le cirage maçon. Au moins 300 chansons, donc, écrites par Albert Godet, je dis, une vingtaine de contes aussi, et pour les poésies et la prose rimée, ce sont presque 200 pièces écrites entre 1869 et 1930. L'amour occupe, et de loin, la place la plus importante, aussi bien chez le tout jeune homme que chez le vieil homme. Les acrostiches déclinent tous les prénoms à la mode. Le printemps, comme il se doit, l'inspire beaucoup, et Albert a de l'humour. Il est parfois un peu lourd. Il joue sur les ressorts qui feront la gloire des comiques troupiers, notamment en prenant au pied de la lettre des expressions courantes, formules que ne dédaigneront ni Georges Colomb alias Christophe, toujours l'auteur du Sapeur Camembert, ou bien Alfred Jarry. Albert Godet a également en réserve une petite collection de calembours du style « Pour avoir la paix, ne parlons guère ». Trochu n'a jamais commandé que les colonnes d'Hercule, R'CULS. Voilà, Trochu, voilà. Il donne aussi dans les combles. Le comble en matière juridique, c'est de vouloir tout condamner jusqu'à la porte du tribunal. Je vous épargnerai la liste commentée des milliers de strophes écrites par Albert Godet. D'abord dans l'atelier familial de photographie de la rue des Carrières, puis dans les dizaines de domiciles qu'il a occupés avec sa femme et ses enfants, toujours de part et d'autre de l'avenue Clichy, car l'ancrage dans ce secteur parisien reste toujours aussi fort. Comme beaucoup de ses contemporains non propriétaires de la fin du 19e et du début du 20e, il déménage à tout bout de champ. Le fait qu'une cour intérieure possède un arbre peut justifier que l'on charge le modeste ameublement familial sur une voiture à bras pour aller passer le printemps ou l'été dans un semblant de verdure. Les productions littéraires ne constitueront jamais une source de revenus considérable et Albert Godet est le premier à en présenter. Mais, de temps en temps, l'édition d'une chanson amène un peu de beurre dans les épinards, plus précisément les bains à domicile. Car c'est là le luxe suprême que s'autorise rarement la famille, on commande un bain. La voiture à chevaux arrive, les préposés montent à l'étage un grand baquet d'eau qui a chauffé pendant le transport. C'est un des services que proposent les bains Gerbois depuis leur établissement du coin du boulevard des Batignolles ou depuis celui de la rue du Bon-l'Abbé. Alors j'achèverai de parler d'Albert Godet en revenant à ses années de jeunesse. C'est surtout à cette époque que l'on trouve dans ses écrits un thème qui va nous ramener au point de départ de cette petite chronique d'une famille dans le Paris du XIXe siècle. Je veux parler de l'actualité politique et sociale. Le 4 septembre 1870, Albert écrit un hymne à la liberté pour célébrer l'avènement de la République que saluait Adèle dans son journal. Quelques mois plus tard, c'est un miséréré pour les victimes de la Commune. Les textes anticléricaux sont assez présents, dont un très dur reprenant un fait divers concernant le viol d'une fillette par un prêtre. Les prêtres, je cite Albert s'adressant au Christ, « ces gens qui vont partout enseignant ta morale et qui t'adorent mort, te maudiraient vivant. » L'Église, en ces années de dernière partie du XIXe siècle, est toujours associée au pouvoir, à la monarchie ou à l'Empire. Dans un poème d'avril 1870, Albert s'enflamme contre l'empereur. Un fourbe, un souverain se vautre dans le crime, écrit à l'assassin au nez de sa victime. Puis, jésuite par goût, pour cacher l'immondice, au peuple le 15 août, tire un feu d'artifice. Je vous avais parlé de cette histoire de feu d'artifice le 15 août. Ces allusions à la vie publique continuent. Dans les lignes qui suivent, il est question des grèves du Creusot où 4000 hommes de troupes ont été envoyés et qui viennent de faire 6 morts parmi les mineurs. Toujours en avril 1870. Un exploiteur étrille le malheureux mineur, qu'au besoin il fusille. C'est parfait, dit le prêtre. J'ai donc remonté rapidement le cours de la vie d'Albert pour lui faire rejoindre sa sœur Adèle et son frère Anatole. Alors je vais conclure par la juxtaposition de la présence de ces trois jeunes gens, la jeune républicaine, le rimailleur impénitent et le photographe d'art, une présence dans un monde dont j'espère vous avoir donné un parfum, grâce à la magie des documents échappés au temps, au changement de lieu, au changement de main. Un monde aussi que les conférences prononcées ici m'ont aidé à mieux interpréter. Voilà, si vous avez des questions, je suis prête à y répondre.
J'en ai une. Elle est morte de quoi, Adèle ?
Adèle, de la tuberculose.
Et les documents, tu les avais dans ta famille ?
Alors, voilà, c'est des documents de ma famille. Alors, là, je ne le fais pas circuler. Hein. C'est le petit carnet d'Adèle. Pour vous situer les choses, je ne suis que la petite fille d'Albert Godet, le rimailleur. Parce que chez moi, il y a largement une génération de décalage. Et Albert, Adèle et Anatole, il n'y a qu'Albert qui soit marié, il n'y a que lui qui ait eu des enfants, il a eu deux filles qui n'ont pas eu d'enfants, il a eu mon père qui m'a eu moi. Voilà, je me suis retrouvée avec ces documents-là.
Vous parlez de leur anticléricalisme, est-ce qu'ils avaient une religion ?
Adèle a été enterrée religieusement. Il n'y a aucune allusion à la religion dans son carnet. Vous avez vu ce que pourrait être la religion. Elle est marraine d'une petite fille.
Plutôt catholique.
Catholique.
Qui est Boris alors?
Boris, c'était un copain de mon grand-père.
Son travail est signé, c'est pour ça qu'on sait que...
Voilà, les noces de Pierrot. Quand je dis que les conférences qui ont été données ici et que j'ai eu l'occasion d'écouter m'ont vraiment aidé à sentir... Comment se situe ou ne se situait pas cette famille, en fin de compte.
C'est important.
Mon père ne m'a jamais raconté... Enfin, il me parlait beaucoup. Je savais que le petit carnet, c'était précieux. Ce qui concerne l'atelier de photographie, je n'ai rien su. C'est-à-dire, c'est moi qui ai trouvé toute seule qu'il y avait des photos qui représentaient des toiles de Manet, qui me suis rendu compte que c'était quand même quelque chose d'assez important. Je pense que lui, mon père, ne savait même pas. Il y a dû y avoir à un moment un ras-le-bol du jeune frère par rapport au frère qui a été interné, etc. Et je crois que tout ça, ça a été pudiquement couvert. Et quand Michel Perrault est venu ici, qu'elle nous a parlé de cette femme, Lucie Beau, dont elle a retracé l'itinéraire d'une femme ouvrière, etc. Et c'est les historiens qui ont fait découvrir cette femme à sa famille. Bon, moi, c'est pas pareil. Il n'y a pas d'historien qui soit intéressé à ces personnes-là. Mais ma famille n'a pas entretenu un souvenir particulier, quoi.
Il y a des spécialistes de Manet qui sont venus vous voir.
Ah oui, je suis en particulier en relation avec une dame qui s'appelle Juliette Wilson Barrow, qui est une spécialiste de Manet, qui connaissait les photographies Godet. Pour les historiens de l'art, l'état d'une toile, à un moment donné, est extrêmement important. Il y a une toile de Manet qui représente une nymphe, et dans le feuillage derrière, il y a une tête de satyre. Et la tête de satyre a disparu, alors qu'elle est sur la photo Godet. Une photographie est très intéressante pour les historiens de l'art. Donc voilà. Et puis, Manet était un homme très élégant, assez séduisant, qui a été beaucoup photographié. Nadar a fait beaucoup de photographies de lui et les photographies sont attribuées n'importe comment. Il y a des échanges entre photographes, même photographes de renom, etc. Et je me suis amusée à faire une petite étude là-dessus, par exemple.
Une question, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait eu une relation entre Félix Nadar et Nicolas Godet ?
Je ne sais pas. J'en sais rien. Les seules choses que j'ai concernant l'atelier de photographie, c'est la lettre délirante d'Anatole à la fin de sa vie et c'est les photographies.
Il y a la lettre.
Ah oui. Mallarmé a écrit dans une revue anglaise un article sur Manet et les impressionnistes. À l'origine, l'article devait être accompagné d'une photographie. Et Manet souhaitait que ce soit une œuvre qui s'appelle Le Linge. Et il écrit à Mallarmé : je vais faire photographier le linge par mon photographe. Godet a photographié en effet cette toile, mais le cliché n'est pas paru.
C'est lui qui a commencé la photographie.
Oui, c'est Nicolas Godet.
C'est ça. Et comment il est venu à la photographie ?
Ben, je ne le sais pas. J'aurais aimé me le faire raconter, mais je ne sais pas. On a à la maison un petit livre de galvanoplastie.
Oui.
Il existe.
Mais peut-être que dans le milieu du Faubourg Saint-Antoine, ils s'en servaient pour pouvoir faire des catalogues pour proposer à la France.
Peut-être. Peut-être.
Cela dit, les premiers châssis, les premiers appareils photo étaient en bois.
Oui.
Magnifiquement réalisés. Les chambres, comme un travail d'ébénisterie.
Oui.
Les trépieds.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Enfin, Albert a été le conservateur tout de même.
Alors, ça, c'est très important ce que vous dites, parce qu'il a choisi de garder le carnet d'Adèle. Il s'est rendu compte que c'était important. Il a choisi de garder les photos de Manet. Il a choisi de garder la lettre de son frère, je pense, parce que c'est lui qui l'a fait interner. Il avait besoin certainement aussi de ça. Mais il n'a rien raconté.
Et en 1930, à sa mort, qui a préservé tout ce héritage ?
C'est mon père.
Son carnet est devenu photographe.
Ah si, mais oui. Mon père a commencé par être photographe. À l'âge de 10 ans, il a travaillé chez Gaumont. Avec son père. J'ai trouvé dans les archives Gaumont une lettre écrite par le personnel à M. Gaumont pour remercier d'un don que Gaumont a fait à la veuve d'un employé qui était mort. Et j'ai vu côte à côte la signature de mon père, donc qui était petit garçon, quoi, et de mon grand-père.